9h30 à Paris, 8h30 en temps universel. Le journal, bonjour Sébastien Duhamel.
Bonjour Juan, bonjour à toutes et à tous. Et la une, la diplomatie active autour de l'Est de la RDC. Un sommet de la SADC est notamment prévu aujourd'hui quand le chef de la diplomatie française rencontrait hier Félix Tshisekedi à Kinshasa avant une rencontre prévue aujourd'hui avec Paul Kagame. Au Bénin, 20 ans de prison pour Olivier Bocco et Oswaldo Mekki, ancien proche du président Talon et un ancien ministre des Sports, reconnu coupable de tentative de coup d'État. La situation de Léré ensuite au Mali, une ville sous blocus djihadiste depuis 2 mois maintenant. La fin de la présence militaire française au Tchad avec une première cérémonie hier pour acter la rétrocession de la base d'Hadji Kossé. Ce matin, seconde cérémonie prévue par la présidence tchadienne. Une situation volatile désormais au sud Kivu dans l'est de la RDC. Alerte de l'ONU qui fait part d'informations crédibles sur une avancée du groupe armé M23 vers Bukavu. Un groupe qualifié de terroriste par Kinshasa et qui a déjà pris position plus au nord dans plusieurs quartiers de la ville de Goma avec le soutien du Rwanda. Le Rwanda où le chef de la diplomatie française est donc normalement attendu pour rencontrer le président Kagame aujourd'hui, Jean-Noël Barrot, qui était en premier lieu à Kinshasa hier pour s'entretenir avec le président Tshisekedi. Retour sur cette rencontre avec Pierre Firsion.
Le président congolais a fait part à Jean-Noël Barrot de son analyse de la situation dans l'Est, puis lui a réitéré ses regrets suite à l'attaque mardi contre l'ambassade de France à Kinshasa. Une rencontre qui a duré un peu plus d'une heure. Le ministre français des Affaires étrangères s'est ensuite envolé pour Kigali, où il a passé la nuit. Ce vendredi matin, il doit s'entretenir avec Paul Kagame. Quelle sera la teneur de son message? Selon son entourage, Jean-Noël Barrot va demander le retrait des troupes rwandaises de l'Est de la RDC. Cette demande avait déjà été formulée samedi par Emmanuel Macron lors d'un entretien téléphonique avec le président rwandais. Mais depuis, il y a eu cette offensive éclair du M23 et des troupes rwandaises sur Goma. Paris semble désormais vouloir hausser le ton. Jeudi, Christophe Lemoyne, le porte-parole du Quai d'Orsay, a appelé les forces rwandaises à, je cite, « quitter instamment la République démocratique du Congo » et le M23 à se retirer immédiatement des territoires dont il a pris le contrôle. Fin de citation. Et le porte-parole du Quai d'Orsay d'ajouter « la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC ne sont pas négociables ».
Pierre Firsion est dans ce volet diplomatique après l'EAC, la Communauté d'Afrique de l'Est. C'est la SADC, la Communauté de Développement d'Afrique Australe, qui organise aujourd'hui un sommet extraordinaire sur ce dossier dans la capitale du Zimbabwe, Harare. La SADC dont est membre la RDC justement et qui a déployé une force dans l'Est congolais. Une lourde peine prononcée au Bénin contre l'homme d'affaires Olivier Bocco, ancien proche du président Talon, et contre l'ancien ministre des Sports Oswaldo Mekki également, condamné à 20 ans de réclusion criminelle lui aussi. Tous les deux ont été reconnus coupables de tentative de coup d'État en septembre dernier. Les deux hommes écopent par ailleurs d'une amende salée, 64,5 milliards de francs CFA, soit un peu moins de 100 millions d'euros. Compte rendu d'audience avec Jean-Luc Aplogan.
La Cour, dans son verdict, les déclare coupables de complot contre l'autorité de l'État, de corruption, de faux et d'usage de faux. Un peu plus tôt, le ministère public affirmait que l'argent retrouvé au domicile de l'ancien ministre au moment de son interpellation a été mobilisé par Olivier Bocco et son beau-frère. Le réquisitoire accuse l'ex-membre du gouvernement d'avoir acheté le chef de la garde présidentielle par une générosité exceptionnelle et inhabituelle. Toujours selon le procureur, il agit c'est pour Olivier Bocco. Oswaldo Mekki propose à la Cour de visionner les images enregistrées par ses caméras de surveillance le jour de son arrestation pour découvrir la vérité. L'accusation est cousue de fil blanc, proteste Olivier Bocco qui raconte « J'étais au Maroc quand mon grand frère, le président Talon, m'a demandé de rentrer. Dans la nuit du 23 au 24 septembre, il me téléphone et me demande de venir le voir. Je m'y rendais quand on m'a arrêté. Si je préparais quelque chose, je n'aurais pas répondu à ces invitations. Un jour, on reparlera de ce procès. » Fin de citation. Jean-Luc Aplogan, Cotonou, RFI.
La situation préoccupante de la ville de Léré, à présent au Mali. Une ville toujours sous blocus des djihadistes du Jnim, à une soixantaine de kilomètres de la frontière mauritanienne. La situation dure depuis 2 mois maintenant. Léré, qui compte officiellement plus de 26 000 habitants, une ville qui est surtout habituellement un important lieu de passage pour les voyageurs et les commerçants. Mais depuis 2 mois, le calvaire sur place se poursuit donc dans le plus grand silence des autorités de transition, David Bachet.
Aucun camion de marchandises, aucun car de transport ne passe. Selon plusieurs ressortissants de l'Éré et notabilités de la région de Tombouctou, le blocus demeure total. Une vidéo transmise à RFI montre des rues quasi désertes, de nombreuses boutiques fermées. Il n'y a pas de riz, pas de viande, pas d'huile, pas de pâte, déplore celui qui filme. Il n'y a rien. Les populations se nourrissent grâce au stock de certains commerçants et dans une moindre mesure à la contrebande qui permettrait de faire passer quelques marchandises d'Algérie et de Mauritanie en payant les djihadistes du Jnim, ce qui n'empêche pas une raréfaction des produits et une explosion des prix. L'armée n'a jamais approvisionné la ville, déplorent plusieurs sources. Lors du blocus très médiatisé de Farabougou, deux mois après le coup d'état militaire d'août 2020, l'armée avait mis en scène le transport de denrées alimentaires par hélicoptère, avant de mener une opération dite de libération. Assimi Goïta, à l'époque colonel et vice-président de la transition, s'était personnellement affiché devant les caméras. Sollicité par RFI, ni l'armée malienne ni le gouvernorat de Tombouctou n'ont donné suite. Ils ne se sont jamais adressés aux populations sur le sujet, confirment plusieurs sources, qui dénoncent une omerta et un aveu d'impuissance.
David Baché, une cérémonie ce matin dans la capitale tchadienne, N'Djamena, sur la base d'Hadji Kossé, cérémonie en présence du président Déby, qui doit normalement prendre la parole pour marquer le départ de l'armée française. Car hier, dans cette même base, une première cérémonie militaire était organisée pour officialiser la rétrocession. Il n'y a donc plus de soldats français, il reste désormais une poignée d'officiels sur le départ. Selon une source militaire française, les deux armées se quittent ici en bons termes après de nombreuses années passées à combattre côte à côte. Mais aux premières loges, qu'en pensent eux les habitants de N'Djamena ? Notre correspondante Nadia Ben Mafoud leur a posé la question.
Je ne suis pas satisfait du départ de l'armée française. Parce que vous voyez, on peut revoir les accords. Il y a des anomalies dans les accords, datés depuis 1960. Maintenant, le départ de l'armée française, il y aura une conséquence. Parce qu'une fois que l'armée française quittera, il y aura la rébellion qui va être déclenchée et qui va fournir des informations pour l'armée tchadienne.
Moi, je suis très ravi et moi, je suis parfaitement d'accord pour le départ de l'armée française au Tchad. Nous pouvons gérer notre pays. Nous avons de l'armée, nous avons des autorités. Nous, on peut gérer de notre pays sans les Français. 60-quelques années, c'est trop.
Il n'y a pas de problème entre le peuple français et tchadien. Et nous sommes des amis, nous sommes des frères, on fait ensemble, on fait tout ensemble. Mais en tant que l'armée française, quitte ou quitte, moi je suis d'accord. C'est l'indépendance. C'est maintenant qu'on a eu l'indépendance.
Parole d'habitants de N'Djamena après la rétrocession hier par l'armée française de la base d'Hadji Kossé. Rejoindre l'Europe et le faire légalement, c'est l'objectif d'un programme de recrutement entre l'Espagne et le Sénégal. L'Espagne qui recherchait 370 ouvriers pour travailler durant 3 mois dans le pays, le temps de la saison agricole. Mais côté sénégalais, les bureaux installés dans 14 régions différentes pour recueillir les candidatures ont été littéralement pris d'assaut, plus de 10 000 postulants au total. Tant et si bien que les autorités ont annoncé que le recrutement papier est aujourd'hui suspendu. Il se poursuivra désormais en ligne. À Dakar, Léa Lisa Vesterov.
Des formulaires remplis sur un bout de trottoir. Devant l'agence régionale de développement de Dakar, ils sont plus d'une centaine ce jour-là, comme Baye, 25 ans, venu
pour travailler en Espagne.
Tenter sa chance pour un visa de saisonnier agricole en Espagne est une évidence pour ce vendeur de frites.
Au Sénégal, il n'y a pas de travail. Quoi.
Moustapha, 38 ans, lui aussi, vient de candidater pour être ouvrier agricole et ce malgré son travail de commercial.
Ah oui, bien sûr, j'ai déposé comme voilà, tout jeune, ambitieux. Vous savez, le salaire minimum. Minimum au Sénégal n'est pas si voilà. Il y a des employés qui touchent 4 000, c'est le prix d'un mois de loyer au Sénégal. Donc là, si on ne peut pas avoir ce qu'on voit dans notre propre pays, bah, pourquoi pas se voyager.
Lundi, rien qu'en une journée, 10 000 jeunes de 25 à 55 ans, dont la moitié à Dakar, ont déposé leur candidature pour l'une des 370 places de saisonnier agricole en Espagne, dans la cueillette et le stockage des fruits. Un engouement qui a pris les autorités de cour et qui désole Mamadou, étudiant en communication venu gagner un peu d'argent en aidant les candidats à remplir leur formulaire.
Le Sénégal ne mérite pas ça, ne mérite pas de perdre des jeunes pour aller servir d'autres pays, au moins venir au Sénégal pour développer ce pays, c'est la moindre des choses.
Moustapha trouve lui que ces visas de 9 mois maximum sont une bonne idée.
Aujourd'hui, je pense que les Espagnols devaient faire focus sur ce genre de programme parce que ça lutterait naturellement contre l'immigration clandestine.
Mardi, les autorités ont finalement décidé de suspendre les candidatures papier et promis de créer dans les prochains jours une plateforme en ligne pour recevoir les demandes supplémentaires. Léa Lisa Vesterov, Dakar, RFI.
Dakar, où il est 8h, bientôt 40 minutes, et où nous refermons donc ce journal. On retrouve maintenant Juan Gomez. Appel sur l'actualité.
Merci beaucoup, Sébastien Duhamel. Prochain grand rendez-vous avec l'actualité africaine à 12h30, temps universel.